Europe 1.
Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, la reine martyre. Nous avons laissé Marie Stuart fuyant, enceinte, le château écossais d'Holyrood où son favori, le musicien italien Rizzio, a été sauvagement assassiné par Darnley et ses complices. L'enfant qu'elle porte naît 3 mois plus tard, le 9 juin 1566. C'est un fils, il est baptisé Jacques. Rizzio, en est-il le père? Eh bien, pas plus que les contemporains de Marie, les historiens ne croient à cette hypothèse. Jacques est bien le fils légitime de Darnley. Un Darnley que Marie ne supporte plus, au point d'entamer maintenant une liaison avec un certain James Hepburn, comte de Boswell, une force de la nature, borgne aux cheveux roux, aux traits creusés. C'est un homme brutal, orgueilleux, mais d'une intelligence exceptionnelle. Selon la formule de Stephen Zweig,
« un homme taillé dans un bloc de marbre noir ».
Il est grand amiral d'Écosse et a un succès fou auprès des femmes. Avec lui, Marie Stuart est saisie d'une sorte de frénésie amoureuse.
Le feu qui couvait en elle l'envahit et la dévore.
Elle s'abandonne jusqu'à l'autodestruction. Boswell veut le pouvoir. Comme Darnley avant lui, il se verrait bien roi d'Écosse. Mais pour y parvenir, il faut se débarrasser de Darnley. Alors, dans la nuit du 9 au 10 février 1567, la petite maison de Kirk O'Field, près d'Édimbourg, où se trouve alors Darnley, est détruite par une énorme explosion. Quand on retrouve le corps de Darnley, on découvre avec stupeur qu'il n'est pas mort dans l'explosion, mais étouffé ou étranglé dans le jardin. Tous les regards se tournent alors vers Boswell. Le scandale est énorme, d'autant que Marie, soupçonnée d'être complice, fait la folie d'épouser Boswell seulement 3 mois après ce drame. Ce troisième mariage ne la rendra pas plus heureuse que les deux précédents. Comme Darnley, Boswell se montre déférent en public, mais en privé, il rudoie Marie, la tourmente, l'humilie. Il est furieux contre elle car elle refuse qu'il soit roi. Bientôt, la révolte gronde contre ce couple jugé assassin de Darnley. Marie et Boswell sont assiégés dans Édimbourg par une confédération de nobles écossais. Les combats tournent mal et Marie Stuart doit s'échapper, déguisée en page, en s'évadant par la fenêtre. Ah, dans le danger, Marie Stuart est toujours sublime. Alors seulement, elle semble avoir une vision nette des choses. Alors seulement, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle est capable de mobiliser sa volonté de faire pour agir. Après la prise d'Édimbourg par les rebelles, Boswell a la vie sauve, à condition de quitter le pays sans demander son reste. Il part en Norvège, au passage en emportant l'argenterie et les bijoux de Marie Stuart. Les époux se séparent à jamais. Marie rentre à Édimbourg sous les insultes, car son pire ennemi en Écosse, John Knox, a remonté le peuple contre elle. Sur son passage, on crie
« Brûlez la putain !»
Dès lors, le destin de Marie Stuart semble scellé. En Écosse, elle n'a plus aucun crédit. En Europe, personne n'ose prendre sa défense. En juin 1567, Marie Stuart est emmenée par les insurgés au château de Loch Leven. C'est une forteresse plantée au milieu d'un îlot qui appartient à William Douglas. La mère de William Douglas n'est autre que Margaret Douglas, mère de Darnley et donc belle-mère de Marie. Difficile pour Marie Stuart de plus mal tomber. Elle y vit isolée du monde, si étroitement surveillée que 2 jeunes filles de la tribu Douglas dorment dans sa chambre. On respecte bien un semblant de cérémonial. Elle est encore reine d'Écosse. Mais on lui refuse des objets de première nécessité. Elle n'a même pas une robe de rechange. Son sort s'arrange un peu avec le temps. On lui envoie son cuisinier et surtout son apothicaire, car elle est alors enceinte, probablement des œuvres de Boswell. Elle avorte entre le 18 et le 24 juillet 67 de jumeaux. Et le même jour, un jour pour elle si douloureux, on exige d'elle qu'elle abdique en faveur de son fils Jacques. Jacques n'a qu'un an, il devient roi d'Écosse sous le nom de Jacques VI. Et Marie ? Eh bien Marie, elle n'a pas 25 ans. En attendant que son fils soit en âge de régner, le régent d'Écosse sera son demi-frère, James Stuart, comte de Moray. Nous l'avons déjà rencontré, il avait accueilli Marie à son arrivée en Écosse. Depuis toujours, Moray veut diriger l'Écosse. C'est un enfant illégitime, mais il se considère plus digne que tout autre d'occuper la place que sa naissance lui refuse. À Lochleven, la beauté de Marie opère toujours. L'un de ses geôliers lui offre la liberté si elle devient sa maîtresse. Elle refuse durement. L'un des demi-frères de Moray, Lord George Douglas, tombe fou amoureux d'elle. Il l'aide à s'échapper une première fois, déguisé en lavandière. C'est un échec et George est banni de Lochleven. Et c'est finalement un petit page de 16 ans, William Douglas, éperdument amoureux de Marie, qui l'aide à s'enfuir. Ils volent les clés du château, attachent ensemble toutes les embarcations amarrées au ponton. Sur la rive du lac, un complice les attend avec deux chevaux scellés. On fuit, à bride abattue. Ah, une fois encore, quelle audace, quel courage! Dans ces moments-là, la Marie, impulsive, combative, prend le pas sur la femme soumise à ses maris. Après l'évasion de Lochleven, il va y avoir encore un dernier baroud d'honneur. Les troupes royales ralliées à Marie s'opposent à celles de Moray. Mais leur combat n'est pas le même. Marie, elle, se bat pour rester reine d'Écosse, alors que Moray, lui, se bat pour l'Écosse. La bataille est un désastre pour Marie et ses partisans. Où fuir à présent ? Avec Marie Stuart, c'est forcément toujours dans la gueule du loup. En l'occurrence en Angleterre, chez sa pire ennemie, Élisabeth Ière. La légende, la poésie, le théâtre et de nombreux historiens ont voulu faire de ces deux femmes les antithèses parfaites. D'un côté, Marie Stuart, superbe princesse parée de tous les dons de l'esprit et du cœur, vulnérable en raison de sa générosité et de ses sentiments trop fougueux. De l'autre, Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, laide et cruelle. Il est vrai qu'Élisabeth, de 8 ans plus âgée que Marie Stuart, est moins belle et en est jalouse. Quand l'ambassadeur de Marie vint à Londres, un certain Melville, Élisabeth fit tout pour le séduire. Elle parla toutes les langues qu'elle connaissait, joua du luth, dansa, voulut savoir si Marie faisait tout cela aussi bien, demanda si ses cheveux n'étaient pas plus beaux que ceux de Marie, si Marie était plus grande ou plus petite qu'elle. L'ambassadeur s'en tira par une habile pirouette en disant
« Élisabeth est la plus belle des reines d'Angleterre et Marie la plus belle des reines d'Écosse. »
En réalité, les destins de ces deux femmes qui ne se sont jamais vues sont surtout unis par une profonde antipathie politique et religieuse. Entre Élisabeth et Marie Stuart, la grande question est celle de la succession. Et sur ce point, Élisabeth Ière ne variera jamais. Elle exige que Marie cesse d'unir les deux royaumes, Angleterre et Écosse, sur ses armoiries, et d'autre part qu'elle épouse un protestant anglais, et non un prince catholique espagnol ou français. Si elle respecte cela, Élisabeth se déclare d'accord pour la désigner comme son héritière. Durant toutes les années où Marie sera la captive d'Élisabeth, soit pendant 19 ans. Toutes les deux vont avoir une correspondance amicale où Élisabeth se comporte comme une espèce de sœur aînée qui prodigue des conseils à Marie. Mais Marie n'en reste pas moins sa prisonnière. Officiellement, Élisabeth l'a fait arrêter pour le meurtre de Darnley. Mais en fait, le gros problème que lui pose Marie Stuart, c'est que les catholiques anglais la considèrent comme la seule et comme la vraie reine d'Angleterre. Durant 18 ans, Marie est ballottée d'un château à l'autre dans toute l'Angleterre. En 1586, elle est emprisonnée à Shartley Hall. Son chagrin y est aggravé par le comportement de son fils Jacques VI d'Écosse. C'est un homme maintenant. Il a 19 ans. Elle ne l'a pas revu depuis ses 1 an. Il n'a aucune affection pour elle. Il a été élevé par ses ennemis dans le protestantisme, notamment par John Knox, et il la tient pour responsable de la mort de Darnley, son père. Marie a souvent tenté de lui écrire pour le gagner à sa cause, mais toutes ses lettres sont saisies. Aucune ne lui parviendra. Le temps passe et la santé de Marie décline. Elle a les jambes enflées, elle perd ses cheveux. Elle consacre ses longues heures de détention à la lecture, la musique et la broderie. Dans ce dernier domaine, elle a un talent né. Elle réalise de merveilleux ouvrages, des coiffes, les derniers modèles de Paris, qu'elle envoie d'ailleurs à sa cousine Elisabeth. Certains de ses chefs-d'œuvre de broderie nous ont été conservés. Ils sont notamment exposés au château d'Holyrood. Marie Stuart écrit aussi beaucoup, au pape, au roi de France, au roi d'Espagne, et tandis qu'elle les supplie de ne pas l'oublier, un jeune homme de 24 ans, un peu niais et très idéaliste, qui la considère comme une sainte persécutée, fomente son évasion. C'est un nommé Anthony Babington. À la tête d'un groupe de jeunes catholiques, il projette de libérer Marie Stuart et d'assassiner Élisabeth Ière. Pour communiquer avec Marie, ce Babington utilise par précaution un code secret. On dit plutôt alors un chiffre. Mais ce code est bien trop simple et trop facilement déchiffrable. En outre, l'homme qui s'est offert de faire passer les messages de Marie, dissimulés dans la bonde d'une barrique de bière, est en fait un agent double au service de la reine Élisabeth. Ainsi, à chaque fois que Marie écrit ou reçoit un message, Élisabeth en connaît le contenu. Le 17 juillet, Marie, croyant répondre à une lettre de Babington dont l'écriture a été imitée, cite les noms de tous les conspirateurs. Elle vient de signer leur arrêt de mort et le sien. Un mois plus tard, le 15 août, Babington et ses six complices sont tous arrêtés. Toutes les cloches de Londres sonnent en signe de triomphe. Leur exécution va atteindre un sommet dans l'horreur. Ils sont pendus, mais seulement à moitié, émasculés, étripés, vivants et conscients, puis écartelés. Même les Anglais qui vénèrent leur reine sont écœurés du sort réservé à Babington et ses complices. Comme si Élisabeth avait été ivre de leur sang. Mais du coup, après cela, elle se calme un peu et elle n'est plus si certaine de vouloir punir sa cousine Marie. Alors elle tergiverse et va attendre 4 mois après le jugement pour signer l'ordre d'exécution. Comment expliquer ces hésitations? Eh bien, parce que même si Marie est sa prisonnière, elle est aussi une reine. Élisabeth est épouvantée à l'idée d'être responsable de la mort d'une femme qui a été 2 fois sacrée. Si elle l'a fait exécuter, elle sera elle-même considérée comme régicide. Elle créera un précédent fâcheux. Envoyer une reine à l'échafaud, c'est montrer à tous les peuples d'Europe que les monarques sont eux aussi responsables de leurs actes devant la justice. Ce n'est pas seulement le coup de Marie Stuart qui risque d'en souffrir, et l'histoire montrera en effet qu'il s'agissait là d'un précédent historique dangereux. Le 8 février 1587, au château de Fotheringay, on prépare l'exécution de Marie Stuart. Marie sait que de son courage dépend la place qu'elle prendra dans la postérité. Elle choisit de porter une robe rouge, couleur du martyr dans le catholicisme. Le jour de son exécution, le bourreau, sans doute intimidé à l'idée d'exécuter une reine, est complètement saoul. Il doit s'y prendre à 3 fois pour parvenir de sa lourde hache à séparer la tête du corps. L'un de ses aides, croyant voir le corps bouger encore, découvre que c'est le petit chien de Marie qui, blotti sous sa jupe, produisait en gigotant un effet macabre. On raconte aussi que les lèvres de Marie continuèrent de longues minutes à remuer. Détail macabre d'une exécution historique. Toutes les affaires liées à cette exécution, vêtements, billots, sont brûlées sur le champ pour qu'ils ne soient pas transformés en reliques par les opposants catholiques de la reine Élisabeth. Marie Stuart a demandé à reposer à Reims. Ses dernières volontés ne seront pas respectées. 15 ans après sa mort, son fils Jacques VI, devenu roi d'Écosse et d'Angleterre, ordonne qu'elle soit enterrée à Westminster. Marie Stuart, trop impétueuse, trop fière, trop amoureuse, y repose pour l'éternité, à 10 mètres de sa cousine et rivale, Élisabeth d'Angleterre. Jetée si jeune, sans conseiller fidèle, dans un temps brutal, parmi des nobles sans scrupules et des prédicateurs intransigeants, Marie a droit à toute notre indulgence. Mais en permettant à la femme de primer la souveraine, elle accumula les fautes. Stephen Zweig a résumé en ces termes le nœud de cette tragédie. Chez Élisabeth, la femme s'inclinait toujours devant la reine. Chez Marie Stuart, la reine s'inclinait toujours devant la femme. C'est la fin de ce double épisode consacré à Marie Stuart. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.